les professionnels et amateurs de littérature sont réunis à Paris, porte de Versailles, à l'occasion du Salon du Livre de Paris, Livre Paris pour utiliser le nom officiel de cet événement. Ce dimanche, j'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer une rencontre sur les nouvelles manières de raconter la bande dessinée. Parmi mes invités, il y aura Marietta Rennes, auteure de Falena, une application bande dessinée, bande défilée, que nous vous proposons de découvrir dans un instant avec son producteur Pierre Catan au micro de Manon Mella. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera toujours question de livres, d'éditions à l'heure numérique. Nous serons avec l'équipe de Premier Parallèle, une maison lancée il y a un an par deux jeunes femmes, dont une ancienne journaliste. Après des débuts entièrement numériques, Premier Parallèle développe désormais une stratégie multi-support incluant le papier. Retour sur expérience avec Sophie Kaya et Amélie Petit de Premier Parallèle dans une vingtaine de minutes. Concernant la rencontre de ce dimanche à Livre Paris, je vous donnerai des détails en conclusion de l'émission. Je suis Yann Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias, une émission co-signée Camille Deloche, Manon Mella, Mathias Virilli et Simon Decreux.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Première étape de notre exploration de l'innovation dans le livre, Falena, une bande défilée dessinée disponible gratuitement et que vous pourrez télécharger sur votre téléphone ou tablette dans une vingtaine de minutes pendant la pause. Pierre Catan est producteur, touche à tout et c'est son entreprise Small Bang qui a conçu Falena.
Alors Falena, c'est l'histoire d'Audrey qui en fait, au début de l'histoire, elle a des problèmes d'épilepsie. Et puis, à mesure que l'histoire progresse, elle va d'abord rencontrer un groupe de chercheurs en neurosciences qui vont découvrir que son problème d'épilepsie, en réalité, c'est pas exactement de l'épilepsie. C'est une anomalie assez rare qui s'appelle un physéter et qui fait que Audrey n'est pas tout à fait comme les autres. Et donc, on va découvrir tout au long du roman graphique son histoire qui va mêler à la fois les sciences cognitives, les neurosciences et la mythologie. Et j'en dis pas plus parce que je pense que c'est chouette de rentrer dans l'histoire au fur et à mesure. Je précise juste que Falena est une application disponible en français et en anglais, qu'elle est gratuite au téléchargement à la fois sur les plateformes iOS, donc Apple, et Android. Voilà, et que c'est disponible dans le monde entier. Donc comme c'est du service public digital, qu'on l'a fait exclusivement avec des sous qui viennent des fonds publics, c'est de l'argent public, donc les contenus sont gratuits. On essaye, à travers Falena, d'explorer d'autres manières de proposer du roman graphique à une époque où beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont un téléphone intelligent dans la poche ou une tablette à proximité. Et on essaye de proposer, voilà, une narration en respectant totalement ce qu'est la bande dessinée, mais en essayant de rebattre un tout petit peu les cartes et les ingrédients pour proposer une nouvelle recette, en fait.
Justement, à quoi ressemble cette bande dessinée? Comment est-ce qu'on la lit? Comment ça marche?
Alors, on a choisi, et c'était une idée de Marietta Rennes, l'auteur et la réalisatrice de Falena, on a choisi d'appeler ce format la bande défilée, puisque en réalité, on fait défiler une bande avec son doigt. C'est un principe mécanique qui fait que l'utilisateur, devant son smartphone ou sa tablette, va, au fur et à mesure que l'histoire avance, faire défiler l'image en faisant un glisser avec son doigt, en anglais on dit un swipe, de la droite vers la gauche, et progressivement, d'abord on a utilisé du parallaxe, qui est une technique qui donne de la profondeur de champ. On voulait donner un peu de profondeur à ce dessin, puisque c'est possible de le faire à travers un écran tactile. Et ensuite, c'est une histoire qui est accompagnée par une bande sonore qui mélange la musique et le sound design et qui est signée par Com Jalibert, qui est un très grand sound designer français qui travaille depuis très longtemps avec moi et qui, notamment, a signé le sound design du film Minuscule que peut-être des gens ont vu.
Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où RFI.
À quoi vous avez réfléchi lors de la conception de cette bande défilée?
Alors, on a eu plein de sujets de réflexion. En réalité, ce qui est intéressant quand on se lance dans ce genre d'aventure, c'est de vouloir à la fois raconter une histoire et proposer un format. On a cherché premièrement à proposer une expérience la plus simple possible. C'est-à-dire qu'on voulait que ce soit quelque chose qui soit complètement accessible de 7 à 77 ans. Et que souvent, la meilleure façon d'utiliser la technologie, c'est quand elle disparaît un petit peu. Et qu'on se rend pas vraiment compte qu'on est en train de rentrer dans une mécanique technologique, mais qu'au contraire, il y a quelque chose de fluide. Et on a d'abord cherché cette expérience très, très simple, qui était de remplacer le fait de tourner une page par le fait de faire avancer une bande défilée. Ensuite, on s'est beaucoup interrogé sur le fait de mettre des voix aux personnages, par exemple. Et au final, on a décidé tous ensemble, je dis tous ensemble, en intégrant toute l'équipe créative de Falena, évidemment l'équipe de Small Bang et aussi l'équipe des Nouvelles Écritures, on a décidé de garder la forme de texte et de bulle qui est tout à fait propre à la bande dessinée, au roman graphique, parce qu'on a compris, en explorant un peu toutes les possibilités qu'on avait, on a compris que c'était beaucoup plus intéressant de laisser au lecteur le choix du rythme de la lecture et le texte dans des bulles, c'était la seule façon pour nous de permettre au lecteur de lire Falena à son rythme. Voilà.
Par contre, vous avez décidé de supprimer les vignettes.
Alors ça, c'est absolument quelque chose que Marietta a tout de suite, je crois, spontanément fait dans son projet. En fait, Marietta, elle a fait l'école des Gobelins. Depuis une dizaine d'années, elle travaille dans les studios d'animation sur des très grands films qui sont magnifiques. Et on s'est rencontrés en 2010 quand on produisait Les Terres Imaginées, qui est un film d'animation que j'ai produit dans ma précédente société de production avec Canal+, et pour Canal+. En fait, Marietta, elle voulait raconter une histoire longue. Et contrairement à l'animation et à la bande dessinée, en fait, ce format-là, ça lui permettait de choisir sa longueur. Et effectivement, Falena, c'est une histoire qu'on met entre 1h30 et 2h à lire, et qui est comme un gros volume, en fait. C'est un peu entre un long métrage et une grosse BD. Et le fait de mettre bout à bout comme ça tous les dessins, c'est quelque chose qui est propre à son expérience, je crois, de storyboardeuse. Elle fait des storyboards dans les films d'animation. Elle est aussi décoratrice, elle dessine pour les films d'animation, elle est aussi animatrice, elle sait un peu tout faire et elle est vraiment très forte. Et en réalité, c'est plus que le fait d'enlever des cases au BD, je crois que Marietta a en fait donné vie à un storyboard. Et qu'on voit très bien, dès les premiers mètres de la bande défilée de Falena, on voit qu'elle se sert du noir et blanc, des grands aplats de noir et des grands aplats de blanc pour enchevêtrer les scènes, qu'elle change les valeurs de plan et qu'elle enchevêtre les dessins les uns dans les autres et qu'elle crée comme ça, à sa manière, un rythme et qu'elle invente, et qu'elle propose un langage qui, je trouve, est vraiment poétique et qui permet, alors après aux utilisateurs d'en juger, mais qui permet, je crois, de vraiment rentrer dans son récit et d'être complètement happé par ce rythme et par cette poésie. Et je crois qu'on a beaucoup besoin de poésie aujourd'hui.
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Ce qui est intéressant, je crois, avec une expérience comme Falena, c'est qu'on a réuni une équipe qui provient à la fois du film d'animation, du jeu vidéo et du développement des applications interactives. Pourquoi est-ce que c'est important de souligner ça ? Parce que, en fait, Falena, c'est un moteur qui permet de lire et d'interpréter des calques provenant d'After Effects. Alors, il faut savoir que After Effects est le logiciel qui est beaucoup employé dans les studios d'animation pour faire les films. C'est un peu le logiciel qui permet d'assembler les dessins et qui permet de faire l'animation. Et il fallait, pour aller au bout de Falena, il fallait qu'on arrive à trouver un moyen de faire lire cette animation qui sort d'After Effects par un moteur de jeu. Donc c'est en fait c'est un moteur qui a été développé sur mesure par Christophe Da Silva, notre développeur, et qui permet pour des applications de lire directement des fichiers natifs de After Effects. Alors c'est un tout petit peu technique, mais c'est juste pour vous dire que derrière Falena, il y a comme un pont technologique entre deux industries. D'un côté, on va dire le jeu vidéo, les applications ludiques, et de l'autre côté, le cinéma d'animation, qui en réalité ont beaucoup de langage en commun, puisqu'il y a du dessin dans les deux, il y a de l'animation dans les deux, il y a du son, de la musique, des voix, des personnages, on raconte des histoires, mais ce sont des industries qui, depuis des dizaines d'années, ne travaillent pas réellement ensemble. Et donc, le rôle de Smallbang, par exemple, dans toute cette histoire, qui est un petit studio indépendant, c'est de créer des ponts. Et de permettre en fait de mélanger le langage du film d'animation avec le langage de l'application, avec le langage du roman graphique. Et je crois que, ben voilà, de ce point de vue-là, c'est très enthousiasmant de faire Falena avec Marietta et de pouvoir d'abord servir l'intention, l'ambition, les envies d'un auteur et d'une artiste comme Marietta, de réunir toute une équipe pour le faire et d'avoir au final, une équipe assez réduite de gens qui sont très forts dans leur domaine, ont beaucoup d'expérience dans leur domaine, mais ont dû, avec Falena, finalement, avancer ensemble vers l'inconnu, en ayant à la fois beaucoup d'assurance dans ce qu'ils savaient déjà faire, et en prenant pas mal de risques pour, finalement, faire un pas de côté et se rapprocher de la pratique technique, professionnelle et artistique du copain qui travaille sur le projet.
C'est ça l'enjeu du livre numérique, de réunir des univers complètement différents et qui avaient l'habitude de travailler séparément ?
Alors moi, je crois que l'enjeu du livre numérique, c'est d'abord de réussir à proposer une offre convaincante à un public qui aujourd'hui est hyper nombreux. On est pratiquement à 3 milliards de smartphones aujourd'hui qui sont dans le monde entier, qui sont reliés les uns aux autres à travers le grand réseau du web. Et je crois que un des enjeux importants pour l'édition de demain, c'est de permettre que, en partie, les téléphones qu'on a dans nos poches soient aussi nos bibliothèques, nos grandes librairies, notre grande discothèque, et que ce soit une manière d'amener la culture, d'amener du sens, d'amener des histoires et de permettre aux gens de se rencontrer autour de ces histoires le plus massivement possible. Et je crois que pour nous, l'enjeu, il est beaucoup là. Et que je crois la question de savoir si la BD, elle doit être en papier ou elle doit être en numérique ou pas, c'est une question qui, à mon avis, est intéressante sans doute pour un milieu, en tout cas des gens qui sont complètement investis dans cette industrie ou dans ce mode de distribution. Moi, je crois que aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le roman graphique et la BD. Même s'il y a beaucoup de ventes, il n'y en a pas suffisamment. Et je crois qu'il faut qu'on trouve les moyens de faire arriver le roman graphique adulte qui raconte le monde, qui propose des histoires. Il faut qu'on arrive à le faire arriver dans les smartphones de façon beaucoup plus naturelle et que les gens prennent l'habitude de consulter, d'acheter pour des prix qui doivent rester modiques, mais de pouvoir consulter un maximum de contenu comme ça et que le digital soit vraiment un vecteur de culture.
Et ça vient d'où les récits en bande horizontale ?
Alors, ça vient de plein de traditions différentes. C'est je crois, pratiquement vieux, comme les dessins rupestres qu'on trouve dans les grottes du Néolithique, où les hommes et les femmes peignaient les animaux qu'ils vénéraient et racontaient les scènes de chasse et les scènes de la vie de tous les jours sur les murs de leurs grottes. Et puis ensuite, il y a une tradition au Japon très importante de rouleaux dessinés. Et puis, plus récemment, on peut penser à la tapisserie de Bayeux. En tout cas, ce sont des inspirations pour Marietta, qui ne s'est jamais cachée d'être totalement fascinée par les récits en longueur et par le fait de pouvoir marcher le long d'un récit comme ça en fresque. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu prolonger l'expérience de Falena à travers une fresque physique qui est comme qu'on installe dans les festivals de bande dessinée. Donc on l'a fait pour le lancement de Falena à Angoulême, fin janvier. On a installé cette fresque de 115 mètres de long qui raconte la mythologie des Falena. Enfin, c'est une histoire qui complète totalement l'histoire de l'application et qui nous permet aussi de rencontrer un public dans les festivals de bande dessinée. On va amener cette fresque au festival Pulp à la Ferme du Buisson début avril et j'invite tout le monde à venir nous rencontrer et découvrir cette fresque. Et ensuite, on ira à Naples au Comic-Con au mois d'avril.
pendant le festival d'Angoulême, donc c'est le festival de la BD, donc qui s'est tenu du 28 au 31 janvier 2016. Donc Faleina, pardon, a été présentée sous la forme d'une fresque papier qui était longue de 115 mètres. C'est une manière de faire le lien entre le monde numérique et le monde physique, et pourquoi c'est important ?
Alors d'abord, c'est important parce que on a à cœur, je crois, à partir d'un univers que pose un artiste, de pouvoir en réalité étendre le territoire de cet univers de façon harmonieuse et cohérente. Et donc Faleina, c'est à la fois une application et à la fois une fresque pour des événements physiques, parce que aujourd'hui, il faut bien comprendre que Faleina, la bande dessinée, est une proposition, et que nous, on veut aller à la rencontre à la fois de l'industrie de l'édition graphique et du public de bande dessinée pour faire connaître et pour populariser un maximum Faleina. On a besoin d'en parler, que les gens en parlent et que les gens partagent. C'est un contenu gratuit. Mais c'est aujourd'hui, Faleina, c'est une application alors qui a été remarquée par le store d'Apple et qui a été sélectionnée comme app sensationnelle, ce qui pour nous a été vraiment un moment de très grand plaisir, mais qui ne suffit pas à faire connaître Faleina auprès du grand public, ou en tout cas auprès du public de la bande dessinée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on veut être présent dans les festivals de bande dessinée, dans les festivals de contenu innovant, ou d'exploration des nouvelles écritures. Et on a besoin impérativement, finalement, de pas être que dans le store, que ce soit Android ou Apple, parce qu'il faut savoir qu'en tant que librairie, le store, aujourd'hui, il y a plus d'1,6 million d'applications. Et que, en réalité, c'est impossible pour nous de faire exister Faleina au milieu du reste de l'offre. Et on a envie juste que Faleina soit une occasion, à travers la fresque, à travers l'application, d'aller à la rencontre d'un certain public. Et pour ça, on utilise plus volontiers les festivals ou les réseaux sociaux.
Plus généralement, quel regard vous portez sur le livre numérique aujourd'hui, sur l'état du livre numérique ?
En réalité, je pense que ce que je vais dire est pas très consensuel, mais je pense que c'est un constat qu'on peut faire après une trentaine d'années où Internet est venu bouleverser totalement nos paradigmes. En fait, les industries culturelles, et c'est un oxymore, j'invite tous les auditeurs à réfléchir au fait qu'on mette côte à côte ces deux mots, une industrie culturelle. En réalité, les industries culturelles se sont plus définies par leur support que par leur contenu. Pourquoi est-ce que l'industrie du disque n'est pas l'industrie de la musique ? Pourquoi est-ce que l'industrie du livre n'est pas l'industrie de la littérature ? Pourquoi est-ce que l'industrie de la télévision n'est pas l'industrie des programmes ? Vous voyez où je veux en venir. Internet est une chance pour la musique, mais ça condamne le disque. Internet est une chance pour la littérature, mais ça condamne d'une certaine manière les livres. Internet est une chance pour les programmes et les histoires en vidéo et en animation, mais ça condamne un petit peu la télévision. Donc, pendant 30 ans et depuis 30 ans, les industries culturelles ont quand même massivement résisté au changement et ont préféré criminaliser les nouveaux usages plutôt que d'accompagner les nouveaux usages. Et on voit bien avec la musique comment ça s'est passé, c'est-à-dire que les gens qui ont inventé le streaming qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas satisfaisant, les Spotify et Deezer et autres ne sont pas des systèmes satisfaisants pour la redistribution de l'argent que les utilisateurs mettent sur la musique, parce qu'ils ne redistribuent pas assez d'argent aux musiciens et aux artistes. Et malgré ça, moi je considère que c'est un progrès qu'aujourd'hui on puisse grandir dans le monde avec un accès à une bibliothèque gigantesque de musique. Ça change de ma génération. Aujourd'hui, cette année, j'ai 40 ans. Je suis né en 1976 et nous, on a grandi avec des cassettes audio. Et notre accès à la culture dépendait beaucoup de nos parents, de là où on était né, du niveau social, etc. C'était tout à fait déterminé. Aujourd'hui, les choses sont encore bien déterminées, mais beaucoup de gens ont accès à des immenses bibliothèques de catalogues, de films, de musique, de jeux vidéo, de littérature. Le mouvement de l'auto-édition en ligne est un mouvement merveilleux que j'invite les gens à suivre. Et je trouve que tout ça représente un progrès. Maintenant, Faleina participe au renouveau de l'offre nécessaire pour que des lecteurs, les gens qui sont passionnés par les histoires en images, que sont les bandes dessinées et les romans graphiques, puissent avoir accès à plus d'œuvres, que ça coûte moins cher et que l'usage en soit agréable. Voilà, nous, on veut participer à ce mouvement. Et on n'est ni les premiers, ni les derniers. On est juste complètement inscrits dans ce mouvement et on prend nos responsabilités comme éditeurs et comme producteurs pour essayer de redistribuer un petit peu les rôles et que les artistes et les publics puissent être en lien plus direct grâce au digital.
Courte pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant. Nous serons dans les locaux de la toute jeune maison d'édition Premier Parallèle.
Pour la première fois, Livre Paris met à l'honneur l'Afrique à travers Brazzaville.
Des médias à l'occasion de Livre Paris, anciennement Salon du Livre de Paris, nous découvrons cette semaine des innovations ou des projets du monde de l'édition. Après Falena, la bande défilée dans la première demi-heure, nous partons maintenant à la rencontre de deux jeunes femmes qui ont lancé leur maison d'édition il y a un an. Retour sur expérience.
Alors en fait, c'est l'histoire d'une rencontre de donc Sophie et moi. Sophie qui venait de Rue 89 du numérique du journalisme, moi qui étais éditrice papier depuis plusieurs années pour différentes maisons. Donc deux approches très différentes avec un même désir de faire émerger des débats nouveaux, de faire émerger des voix, d'apporter, de créer un lieu d'émulation intellectuelle un peu à la fois rigoureux et réjouissant et gai et joyeux, et vivant.
Sophie Kaya, cofondatrice de Premier Parallèle avec Amélie.
Bonjour, je suis Amélie Petit, cofondatrice de Premier Parallèle avec Sophie. C'était un désir éditorial et puis de mon côté un désir de créer ma propre maison après avoir travaillé pour celle des autres, évidemment. Enfin,
mais entrepreneurial aussi. L'envie toutes les deux de d'avoir notre maison à nous, c'est-à-dire de plus travailler pour les autres et de faire travailler les autres et d'amener des auteurs autour de nos envies, de nos projets. Et oui, l'envie d'entreprendre, c'est pas rien quand même de nos jours.
Et disons qu'il y a quelque chose de souvent frustrant quand on travaille dans des maisons, c'est qu'on n'est pas en maîtrise de l'intégralité de la chaîne, donc on travaille à un moment, enfin c'est le cas dans tous les secteurs, mais là le fait de maîtriser, d'être responsable du livre depuis sa conception jusqu'à sa promotion, on endosse une responsabilité qui est importante dans le rapport aux auteurs aussi.
Est-ce qu'il y avait aussi un désir technologique ou de technologie ou d'insertion dans l'univers numérique également, avec la création de cette maison d'édition ?
Je dirais que la technologie est au service du projet éditorial, pas l'inverse. Donc il n'y avait pas de désir technologique à proprement parler. En revanche, la technologie, le fait de s'émanciper des frais de fabrication, le fait d'entrer dans un marché nouveau dans lequel les codes ne sont pas encore établis et donc d'avoir une liberté très grande était très précieux. Et ça, c'est le numérique qui le permettait. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas publié les textes qu'on a publiés au début directement en papier.
Comment ça se fait ? C'était quoi l'idée derrière ? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix technologique ou comme choix en termes de numérique ?
Alors en termes numériques, nos livres, donc c'est essentiellement des EPUB, enfin sauf les mobiles pour Amazon.
EPUB, donc c'est un format de publication numérique.
Hein. C'est le format universel, enfin quasi universel de publication numérique, sans DRM, donc sans verrou.
Ce qui fait... En menottes numériques, comme on dit, c'est-à-dire que les gens peuvent, une fois qu'ils l'ont téléchargé, le partager, l'envoyer, etc.
Voilà, exactement. Alors, c'est quand même un enjeu, le fait qu'on puisse le partager. Mais on se dit qu'un fichier partagé, c'est c'est un livre donc, qui a plu et qui est donc recommandé et que c'est un lecteur en plus. D'autant plus qu'il n'y a pas pour l'instant de cannibalisation entre le marché du numérique et le marché du papier, donc on n'a pas grand-chose... à craindre, je pense qu'il faut plutôt se lancer là-dedans avec enthousiasme.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cannibalisation entre les deux marchés ? Concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, ça signifie qu'il semble pour l'instant, d'après mes dernières lectures, que les lecteurs de numériques n'empiètent pas sur le lecteur à papier. Sauf pour les énormes best-sellers. Mais si on publie, et c'est la même chose pour le piratage, c'est-à-dire que seuls les best-sellers sont piratés. Donc d'une certaine façon, réjouissons-nous d'être piratés. Enfin, nous, on aimerait bien être piratés, en fait. Ce serait le signe d'un très grand succès.
Dans la bibliothèque de notre bureau, on peut trouver les 9 livres de notre catalogue. Le tout premier, c'était « Des voix derrière le voile » de Faïza Zerwala. Et le tout dernier, c'est « Traversée de Tchernobyl » de Galia Ackerman, qui sort le 17 mars. Entre les deux, il y a eu toutes sortes d'aventures. Il y a eu La Lente Évasion de Camille Polony en coédition avec Rue 89. Il y a eu The United States of Google qui était issu d'un article de Die Zeit publié en Allemagne et traduit et augmenté d'une préface d'Adrienne Charmé-Alix. Et puis, on a ensuite été sur un terrain toujours les femmes avec Sophie Bouillon, Elle, les prostituées et nous, qui est un texte pas uniquement journalistique, qui est un récit personnel d'une auteure très précieuse. Et puis, on a ensuite traduit un long format journalistique du danois qui s'appelle « L'homme qui se souvient de tout ». Qu'on a fait préfacer par le champion de France de la mémoire, Sébastien Martinez, qui publiera bientôt un livre chez nous. Et puis, à la rentrée de septembre, on a publié Gérard Haddad, qui est un auteur connu et reconnu, qui est psychanalyste, qui nous a écrit « Dans la main droite de Dieu, psychanalyste du fanatisme », avant de publier ensuite Christina Nehring, une auteure américaine, une essayiste américaine, dont on a regroupé trois articles, qui est une critique des dérives du féminisme américain actuel. Avant ensuite de publier juste pour la COP21 Bénédicte Magnier, qui est une journaliste environnement reconnue, qui nous a écrit Made in India, le laboratoire écologique de la planète. Voilà, et on a fait ensuite une petite pause éditoriale de 3 mois avant de passer à la diffusion en librairie et donc Traverser de Tchernobyl est le premier livre qui sera dans toutes les librairies de France et de Navarre sur table et on tient beaucoup à ce texte.
Il y a 2 remarques par rapport à ce que tu viens de me présenter. On est donc face à une petite bibliothèque où il y a différents exemplaires des livres que vous avez publiés, que vous avez édités. La première, sur les personnes que tu cites, il y a 80-90% de journalistes.
Oui, mais c'est pas des livres journalistiques purs. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Christina Nehring, c'est ce qu'on appelle une éditorialiste à l'américaine, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a une plume et qui ne suit pas l'actualité au quotidien, mais qui a vraiment des sujets qui lui tiennent à cœur et qu'elle a regroupé ici dans ce livre. Il y a des formes un peu expérimentales comme le blog de Camille Polony, La Lente Évasion, qui est un livre sur la sortie de prison. Mais qui se justifie vraiment totalement dans un livre issu du blog, issu du numérique. Et puis, si on prend Gérard Haddad, c'est un psychanalyste qui est essayiste. Et Galia Ackerman, c'est l'exemple type. Elle est à la fois journaliste, mais elle est aussi traductrice, éditrice. Elle a enseigné. Enfin, c'est des gens qui ont beaucoup de casquettes, beaucoup de cordes à leur arc.
Est-ce que c'est lié au fait que toi, tu étais journaliste, tu as eu une carrière de journaliste, est-ce que c'est lié à ça ou pas ?
Non, pas uniquement, parce que c'est vrai que si on prend les gens qui écrivent, on tombe souvent sur les journalistes parce que c'est un peu leur métier. Mais nous, on cherche aussi à avoir des auteurs qui ne sont pas journalistes. Et d'ailleurs, dans les prochains auteurs qu'on va avoir, il y a d'autres profils.
Champion de France de mémoire.
Un philosophe, un champion de France de la mémoire. Et voilà, on tombe souvent facilement sur les journalistes, mais c'est pas... voilà.
Et le deuxième parti pris, donc en dehors des auteurs, ce sont des thématiques, des sujets de société forts, des problématiques sociales, des problématiques du monde, l'écologie, etc. Ça, c'est un vrai choix ou c'est un début et à l'avenir, vous vous permettrez un peu tout?
On construit un catalogue, donc Amélie qui a toujours été dans l'édition, c'est ça mieux que moi, mais on commence un catalogue et puis ça se construit dans le temps un catalogue. Donc là, on a commencé avec les gens qu'on avait autour de nous et puis petit à petit, on explore des terrains un peu plus lointains, on va faire des traductions, on va élargir nos thématiques. On veut que ce soit des points de vue qui apportent quelque chose au débat, voilà.
Autre remarque par rapport à ce que tu m'as montré, je suis presque étonné de voir des livres en papier. Je vous voyais presque exclusivement en numérique.
On avait commencé, les 3 premiers livres qu'on a sortis, on avait fait un tout petit tirage en impression papier pour les rencontres, les dédicaces et les journalistes. Et puis vraiment, l'objectif, c'était d'abord de donner des textes à lire. Et puis on pensait que c'était la manière la plus simple et la plus directe de les rendre accessibles, que c'était des livres numériques. Et puis finalement, les gens nous disaient, on aime beaucoup vos livres, on aimerait bien que ce soit des beaux objets qu'on puisse garder chez nous, transmettre, offrir, etc. Donc on est passé, dès le quatrième livre, à des livres très travaillés, enfin des beaux objets papier. Et effectivement, on est finalement resté là-dessus. Et puis c'est par la suite, on a trouvé donc un diffuseur, distributeur, c'est-à-dire un intermédiaire qui nous permet d'être dans toutes les librairies de France et du monde.
Et comment vous vivez ça, le fait d'être parti sur un projet essentiellement numérique, d'occuper une place qui est finalement assez peu occupée encore aujourd'hui, même s'il y a pas mal de tentatives, et de finalement de revenir à du papier, etc. Vous êtes contente de ça? Vous êtes étonnée?
Ben, on est contente parce que nous aussi on lit des livres papier et on aime bien ces objets, et nous aussi on a conscience qu'il y a une forme de noblesse, de prestige dans le livre papier qui est pas tout à fait le même en numérique. En revanche, les gens autour de nous sont assez peu étonnés. Finalement, tout le monde dit bah oui, c'est le cours logique des choses puisque le marché reste essentiellement papier, et les livres numériques c'est que 5% à peu près, 5 à 10%, disons, du total. Donc, si on veut rencontrer tout le monde, il faut que nos livres soient disponibles dans les deux. Mais ils restent disponibles en numérique à des prix très attractifs qui sont là le plus cher de nos livres numériques. C'est donc le dernier, parce que c'est un livre avec des photos et il est à 7 euros.
Et sinon, la moyenne, c'est autour de 5 euros par livre.
5 euros, ouais, les livres numériques, ce qui est plus de 50% moins cher que les équivalents papier. Et de fait, c'est logique.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
L'Atelier des médias.
Donc il y a un an, vous décidez de vous lancer avec un projet éditorial. Vous décidez aussi d'adapter à ce projet éditorial des choix technologiques, de publier essentiellement en numérique dans un premier temps. Comment ça se passe, ce chemin, pendant un an? Amélie, Sophie?
Non, ça se passe assez vite, en réalité, beaucoup plus vite qu'on l'avait imaginé, parce que dès le début, les gens nous ont dit « on voudrait lire vos livres, comment les trouver ?» Donc on s'est trouvé confronté à un problème technique, c'est que les gens devaient trouver nos livres dans les librairies et que c'était pas toujours très simple.
Alors qu'on peut les trouver et les acheter directement sur votre site internet.
Voilà, exactement. Donc nous, on leur disait « mais vous l'avez en un clic et deux fois moins cher ?» Et les gens disaient « oui, mais moi, je le veux chez mon libraire du coin ». Donc, on a couru les librairies parisiennes, on a fait des dépôts, donc on a proposé aux libraires d'accueillir nos livres sans intermédiaire, et ils l'ont fait souvent avec enthousiasme, et c'est comme ça que, avec le gros succès de L'homme qui se souvient de tout, donc le livre qui est paru en juin sur la mémoire, on s'est vite retrouvé avec un problème d'échelle, c'est qu'on pouvait pas répondre à la demande et courir toutes les librairies de France, donc c'est là que la solution de la diffusion-distribution s'est imposée naturellement.
Donc finalement, vous êtes parti d'un modèle assez innovant. Enfin, en tout cas, vous avez plutôt fait le choix de des nouvelles technologies, etc. Et petit à petit, parce que le marché est comme ça, parce que les usages ont finalement peu changé, vous vous retrouvez à avoir un modèle plus hybride et à aller plus vers une distribution traditionnelle. Vous retrouvez un distributeur et ça, etc.
On ne renonce pas du tout au numérique. C'est pas du tout. On continue à avoir une politique de prix bas, par exemple, de prix bas. On continue à publier les livres sur notre site, sur notre site, à faire les rendre accessibles. Le livre Traversée de Tchernobyl
est votre dernière parution.
Qui est notre dernière parution, est accompagnée d'un site de photos avec plus de 200 photos. Donc on continue. Voilà, on a un site de conférences avec la Gaieté Lyrique qui donne lieu à des livres. Donc on continue à être assez innovante, en tout cas à s'amuser, à chercher des nouvelles formes. Et en partie grâce au numérique. Par ailleurs, le fait de rentrer dans le système du papier permet quand même d'ajouter un intermédiaire qui est extrêmement précieux, qui est le libraire. C'est quand même le grand problème du numérique, c'est à la fois la visibilité et la recommandation, parce que l'algorithme d'Amazon vaut ce qu'il vaut, mais il ne vaut pas grand-chose par rapport à quelqu'un qui lit véritablement. Donc le fait de travailler avec les librairies est évidemment un atout dont on est très heureuse de ne plus se passer.
Qu'est-ce que ça vous a appris d'avoir commencé en misant sur le numérique, de constater que finalement les usages changent très peu? Comment on peut expliquer tout ça?
Moi, je dirais que c'est complémentaire, le numérique. Quand vous voyagez, par exemple, vous êtes au fin fond du Chili, vous avez une connexion Internet et vous avez envie de lire quoi que ce soit dans le monde, vous le trouvez, vous l'achetez en ligne et vous l'avez. Vous pouvez lire, par exemple, sur votre smartphone, votre tablette. Ouais. C'est quand même extraordinaire. C'est une liberté incroyable. Ensuite, quand vous vous promenez le week-end dans votre quartier et que vous allez voir votre libraire et que vous avez envie de découvrir des choses, de faire des rencontres littéraires, votre libraire va vous dire: j'ai adoré ce livre, je te connais, je sais que t'aimes plutôt lire ça, tu devrais lire ça. Donc c'est vraiment très différent, c'est des livres qu'on va lire à différents moments de sa vie, de différentes manières. Mais c'est sûr que le fait de pouvoir avoir possédé un livre physique et le transmettre et l'offrir et le prêter et l'avoir dans sa bibliothèque, c'est quand même quelque chose de très précieux. Mais quand on est au fin fond du Chili, on est vraiment très content de pouvoir accéder à un livre numérique.
Amélie, ouais, tu
voulais... Non, je voulais ajouter quelque chose sur la question de la sérendipité, en fait, d'une certaine...
La sérendipité, c'est quand on tombe sur quelque chose un peu par hasard sans l'avoir cherché.
Voilà, à une époque, on a cru que le net permettrait ça et on s'aperçoit en fait que c'est plus tellement le cas et qu'on est très dirigé. Et la librairie permet, en fait, la librairie comme la bibliothèque, l'existence physique des livres permet de retrouver ça. Et je pense que c'est une des leçons, en fait, aussi. Même si, c'est une des remarques qu'on se fait.
Et puis, on avait voulu une maison très vivante, avec beaucoup de rencontres. On s'était dit au début, vu que nos livres sont numériques, bon, on va faire un petit tirage papier, comme ça, ce sera l'occasion d'organiser des signatures. Et de fait, on organise beaucoup d'événements, de débats avec nos auteurs dans différents lieux.
Ça peut au moins être... deux fois par mois, on peut dire, en moyenne, depuis un an.
Hein. Oui, c'est à peu près le rythme. Et c'est vrai que, du coup, nos auteurs, on les confronte à des débats, on les met, que ça peut être dans un café, ça peut être dans une librairie, ça peut être dans les médias. Et donc, on veut vraiment en fait cette idée d'agora, etc. Et c'est vrai que les livres permettent ça, parce que maintenant, de plus en plus, du coup, nos auteurs vont un peu faire le tour de France des librairies, et c'est une possibilité qui n'était pas vraiment offerte quand on était surtout numérique.
Et du coup, oui, quand vous vous êtes lancé, ça a été un choix, vous vous êtes dit: on va être dans le numérique, on va être surtout sur Internet, etc. Il faut qu'on fasse de l'événementiel, il faut qu'on fasse des rencontres pour rendre les choses un peu humaines, c'est ça?
Oui, et exactement. C'était une façon d'incarner notre catalogue. Je crois que le numérique nous a permis de lancer une maison d'édition papier. C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'investissement, on dort mal, c'est lourd. Ce que nous a permis le numérique, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'invention, de... c'est une maison très vivante, en fait. Enfin, j'espère. En tout cas, on a ce sentiment de vivre quelque chose de neuf et... qui invente un peu chaque jour son existence.
C'est-à-dire que ça bouge. À partir du moment où le livre est sorti, on demande à l'auteur d'être très mobilisé, d'être très disponible, et de fait, de faire connaître son livre au maximum, d'aller chercher des publics partout où ils se trouvent. Donc, ils vont se trouver en librairie, mais ils vont se trouver dans le réseau des auteurs, ils vont se trouver par le biais des médias, ils vont se trouver par le biais des associations. Enfin, vraiment, on essaye d'imaginer, parce que il y a tellement de livres qui sortent chaque année, et tellement de livres qui ne rencontrent pas leurs lecteurs. C'est dommage. Nous, on cherche vraiment, on se bat au maximum pour que chaque livre soit le plus visible possible pour que le lecteur n'ait pas de regrets et qu'il sache que voilà, on a fait le maximum pour qu'il rencontre tous les publics qu'il doit rencontrer.
Autre question sur votre expérience, votre tour d'expérience. Est-ce que vous avez le sentiment que la lecture numérique doit encore se développer, qu'il manque peut-être des évolutions technologiques, des objets, des idées qui permettent de rendre la lecture numérique plus agréable, ou non, vous pensez que déjà aujourd'hui, pour lire un livre sur une tablette, etc., c'est un confort qui est déjà intéressant. Amélie ?
On a quand même un problème avec notamment tout ce qui est illustré, puisqu'il y a la question du rétroéclairage. Disons que techniquement, quand même, c'est pas tout à fait, ça me semble pas tout à fait au point.
Il y a un très fort taux d'équipement en France, je crois que c'est de l'ordre de 20% de la population française, qui a de quoi lire des livres numériques, sans parler de l'ordinateur, hein, parce que nos livres sont également accessibles sur notre site en lecture en ligne, pour les gens qui n'auraient pas de mobile. Et donc, l'équipement est là, sauf que
sans parler du téléphone aussi, parce que le téléphone, c'est une tablette.
Maintenant, je considère mon téléphone comme une petite tablette. Et donc, les gens ont l'équipement, mais en réalité, quand ils ont un iPad, ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent lire des livres numériques avec. Et essentiellement, ils regardent beaucoup des vidéos. Donc, c'est le détournement. Les objets sont là, ils sont à peu près techniquement au point, mais soit les gens ne savent pas qu'ils peuvent lire des livres avec, soit il y a aussi cette histoire de verrou qui bloque les gens. C'est-à-dire que si on achète un livre sur iTunes, on ne peut le lire que par iBooks et que dans cette tablette-là. Si on perd cette tablette ou si on change d'équipement, on perd son livre. Alors qu'un EPUB est lisible. À partir du moment où on achète le fichier, par exemple, sur notre site, on a un EPUB sans DRM, on a le fichier, on peut le lire sur toutes les tablettes.
On peut se l'envoyer par mail où on veut, etc.
Oui, sauf sur Amazon qui a un autre format. Mais en tout cas, c'est vrai que cette fragilité de l'objet lié à la tablette est une limite. Il y a tellement de mots, il y a tellement d'outils. Nous, on a une page qui s'appelle Format sur notre site où on essaie d'expliquer tout ça. C'est vrai que pour les gens, c'est compliqué. Et en même temps, une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent aller assez vite. Et ce qui est assez intéressant sur le marché du livre numérique, c'est que les gros lecteurs de livres numériques sont aussi des gros lecteurs de livres papier. Donc, c'est pas l'un à la place de l'autre. Comme je disais, c'est complémentaire.
Et autre remarque par rapport à ce que vous avez dit, on a le sentiment que vous disiez ce qui manque, c'est donc le libraire. C'est-à-dire que on pensait qu'en recréant des espaces d'achat en ligne, ben on recréait la librairie. En fait, il manque l'humain dedans. Est-ce qu'il y a des espaces justement qui peuvent remplacer le libraire en ligne, des espaces de recommandations intéressants, des choses comme ça, comme on peut avoir pour le cinéma, ou est-ce que ça commence à émerger aussi, Amélie?
Il y a le phénomène des booktubers de plus en plus. Donc on voit que le net s'empare quand même de la critique littéraire par le bas, je dirais, enfin par les lecteurs.
Les booktubers, ce sont des youtubers qui parlent de livres.
Hein. Voilà, exactement, qui parlent de livres. Alors je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup pour l'instant dans le secteur de la non-fiction, mais ça va venir. Et puis il y en a peut-être auprès desquels je m'excuse. Je ne sais pas. Mais oui, comme partout, il y a ces espèces de recommandations qui se créent.
Et puis il y a des communautés d'auteurs aussi, des plateformes d'écriture, il y a des choses comme ça. Ça fait partie de l'écosystème pour vous? Ce sont des choses que vous regardez?
Il y a des libraires numériques comme Ipagine qui font des critiques, qui essayent de faire de la recommandation et de s'occuper de ça. Mais c'est encore petit. C'est, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut que croître. Maintenant, ça ne remplacera pas le livre classique et les librairies.
L'édition numérique, en fait, touche essentiellement l'auto-édition. Enfin, amène un marché lié à des gens qui veulent être publiés et qui s'auto-publient. Et donc, la sphère de l'édition numérique est... Nous, ce qu'on a souhaité faire, disons, c'est remettre une recommandation d'éditeur. C'est-à-dire qu'on crée une marque qui est Premier Parallèle, qui affirme que les textes, enfin qui valide le fait que les textes qu'on publie sont de bonne qualité, en tout cas sont la qualité Premier Parallèle.
Ce que tu expliques par là, en fait, c'est que beaucoup d'offres d'édition numérique, il n'y a pas véritablement de travail d'édition, c'est-à-dire qu'on accepte tout le monde, on facture la mise à disposition du texte sur une plateforme, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'auto-édition, il n'y a pas de regard d'éditeur, quoi.
Voilà, alors maintenant, il y a de nouveaux métiers qui se créent, qui sont précisément des métiers d'accompagnement littéraire, avec des gens qui sont très compétents d'ailleurs. Eh bien, on a un manuscrit, tu as écrit un manuscrit que tu as dans un tiroir, tu contactes quelqu'un,
un accompagnant littéraire qui te fait une fiche de lecture, qui ensuite accompagne la réécriture de ton texte, qui t'oriente pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, qui sait, et qui le corrige si tu payes un peu plus, et qui finalement peut-être peut l'apporter s'il est agent aussi à un éditeur. Et c'est très bien si les gens sont très... il y a sans doute de très bons textes qui peuvent émerger comme ça. Je connais plusieurs personnes qui le font et qui le font sans doute avec beaucoup de talent. Mais...
Sophie.
Oui, tu en verras au Salon du Livre, je pense, beaucoup. Donc, effectivement, ça se développe beaucoup. C'est de l'assistance à l'édition. Mais en réalité, donc, les auteurs payent quelqu'un pour les aider à publier leurs textes. Et Amazon, donc dans Kindle Direct Publishing, a cette plateforme qui déjà permet à tout le monde de publier un livre pour Kindle. Et sur la masse des livres publiés, c'est absolument gigantesque parce que c'est pour ça que du coup que Amazon avait aussi lancé son service d'abonnement en disant vous pouvez avoir avec $10 par mois 200 000 livres à télécharger. Mais en fait, donc les gens sont juste noyés sous la quantité et ce qui manque, c'est justement cette recommandation et le fait d'être porté par une maison d'édition qui croit en ses auteurs, qui les accompagne, qui valide la qualité de leur texte, etc. C'est quand même une démarche un petit peu différente.
Pour plus d'informations sur Falena et sur Premier Parallèle, c'est bien entendu sur l'Atelier des médias au plus tard en début de semaine prochaine. Si vous nous écoutez en podcast ou à l'antenne, n'hésitez pas à partager notre travail sur les réseaux sociaux ou auprès de vos amis. Si vous êtes utilisateur, utilisatrice de podcast, pensez à convertir vos proches à cette technologie essentielle à nos vies urbaines et ou mobiles. L'atelier cette semaine était signé Camille Deloche, Mathias Virilli, Manon Mella, Simon Decreux et Ziad Malouf. Si vous êtes à Paris ce dimanche, je vous donne rendez-vous au Salon du Livre, Livre Paris, à 14h au stand de l'Institut français pour parler des nouvelles voix de la bande dessinée. Mes invités seront Mariette Arène, auteure de Falena, et Charles Ayat, designer interactif. Salut à toutes, à tous.